This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent rose, bleu, vert, violet, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités, un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
À l'époque, avec mon partenaire, on avait fait la Club Sandwich Marie au bout de 5 ans. Et on avait traversé tout le marais en calèche. Moi, j'étais en grosse meringue, comme ça, j'étais la mariée. Évidemment, et lui était tout petit avec... Tu sais, comme un peu les espèces de caricatures où tu vois la grosse dame avec son tout petit mari. Tous nos amis étaient là. On a fait une photo de famille comme à un mariage. Il y avait un vin d'honneur. Enfin, on a fait un truc complètement dingue. Et j'avoue que ça, c'était un souvenir assez rocambolesque.
Costume de lumière, strass et paillettes. En toge romaine ou en costume de Sherazade, rien n'amuse plus Emmanuel D'Orazio que le travestissement, la métamorphose, quand soi devient un autre et à plus forte raison, une autre. En remettant le bal costumé sur le devant de la scène, ce directeur artistique et oiseau de nuit invétéré s'efforce depuis 2005 de dépoussiérer la boule à facettes et de faire revivre la douce folie disco et mondaine du Palace ou du Studio 54 de New York. D'abord, avec la Club Sandwich, une grand-messe mensuelle du tout Paris et de la mode. Une seule règle, suivre le dress code. Et ne surtout, jamais confondre costume digne de ce nom et vulgaire déguisement. Puis ensuite, avec le Manco Cabaret et le 7e Ciel, des cabarets hybrides, chics et festifs, ressuscitant l'âge d'or de l'Alcazar. Si un brin de nostalgie transpire de tous ces projets, les soirées d'Emmanuel D'Orazio sont avant tout des aventures modernes où les créatures de beauté croise le regard discret des célébrités. Exploration du sens de la fête référencée d'un artisan qui aime quand la nuit brille jusqu'à éblouir. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand ?
Il y a un mois et demi. C'était en fait la finalisation du Bonnie Club, dont je m'occupais de la direction artistique et du lancement. Le Bonnie Club qui fait partie d'un bâtiment assez emblématique qui se trouve à Sully-Morlan, un bâtiment des années 60, et c'est très rare de trouver en fait une location comme ça à Paris, parce que d'une part on est au 16e étage, donc on est au-dessus des immeubles type haussmannien ou caucase, ce qui te donne une vue sur la capitale absolument spectaculaire. Et t'as l'impression de posséder Paris en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, donc déjà par la vue. Et voilà, donc c'est la dernière fois que j'ai fait la fête pour le week-end de Fashion Week. Quelque chose de festif comme on aime.
Alors justement, quand est-ce que tu considères, toi, que tu fais la fête ? C'est quand tu danses, c'est quand tu vois des amis, c'est quand tu bois, c'est quoi faire la fête ?
Il peut y avoir plein d'ingrédients et une fête ne peut pas prendre. Je compare la fête à une espèce de bonne mayonnaise. Il faut qu'il y ait les bons ingrédients et que tout prenne, c'est-à-dire que les bonnes personnes, les choses qui sont pas prévues aussi, l'imprévu, des gens qui déboulent comme ça sans crier garde, voilà, donc c'est un espèce d'osmose entre la bonne musique, les bonnes personnes, une belle ambiance, s'il y a quelque chose d'artistique, moi au Bonnie j'avais mes Bonnie's Girls, des danseuses, des artistes avec lesquels je travaille depuis le Manco Cabaret qui sont toutes au Crazy Horse. En fait, une fluidité. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te poses pas de questions. Oui, tu peux danser. À l'époque, une bonne fête pour moi, c'était de danser toute la nuit. On est d'une génération, se démonter la tête, tu vois ce que je veux dire ? L'alcool et compagnie. Et je faisais vraiment la fête toute la nuit, jusqu'au bout de la nuit. Maintenant, la fête, je la considère plus comme aussi parler avec des gens, recevoir. C'est pas danser toute la nuit.
Quel âge, si c'est pas indiscret?
J'ai 54 ans et demi.
Et demi.
Voilà, exactement. J'ai fait d'ailleurs une belle fête l'année dernière pour mes 54 ans. J'ai fait une fête qui s'appelait Studio 54. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté.
C'était un hommage au Studio 54 de New York?
Absolument, au studio à New York. Alors le Studio 54, faut le savoir, ça n'a pas duré longtemps. Mais le Studio 54, c'était vraiment le temple de la nuit. Bon, c'était les années disco, hein, faut le savoir. Le disco est quand même une musique pour rassembler les gens. Et c'est surtout que au studio, tu retrouvais les célébrités les plus hype de Liza Minnelli, en passant par Alston, Grace Jones et compagnie. Aux gens de la rue, en fait, comme le Palace, si tu veux. C'est une référence parce que je trouve ça assez magique. Et en fait, je voulais que sur la scène, il y ait les personnages emblématiques de l'époque, c'est-à-dire Grace Jones, Diana Ross, Donna Summer, Amanda Lear, Liza Minnelli, évidemment que des travestis. J'avoue, j'en ai fait des anniversaires, j'en ai fait des fêtes, mais c'était magique.
Qu'est-ce qu'il y avait de magique ?
Comme je te disais tout à l'heure, l'osmose, enfin les gens qui n'étaient pas supposés être là mais qui se trouvaient à Paris, qui sont venus, des gens connus, moins connus, des gens qui n'étaient pas sortis depuis longtemps, qui fait partie d'une autre génération mais qui ne sortaient plus parce qu'ils ne s'y retrouvent plus aussi dans la nuit, tu vois ce que je veux dire ? Une unité, tu sens vraiment une espèce d'amour, de bonheur des gens qui sont là. Et je pense que la nuit, il faut beaucoup donner aux gens pour pouvoir recevoir. C'est un espèce de ping-pong, en fait. C'est pas égoïste, mais tu donnes et les gens te donnent en retour.
Est-ce que la fête a toujours été importante pour toi ?
La fête a toujours été importante pour moi, oui, absolument. Ouais. J'ai toujours aimé m'amuser, aussi longtemps que je me souvienne et aussi jeune que je me souvienne. J'ai dû commencer à sortir en club. Moi, je suis d'origine lyonnaise et j'allais dans des clubs à Lyon. Déjà, on est dans les années 1980. Hein, et j'ai toujours aimé m'amuser, vraiment. Parce que je trouve que il y a des choses quand même, il y a des rencontres que tu fais la nuit qui ne se font pas le jour. Et moi, j'ai conduit des belles choses et des belles aventures et des belles histoires avec la nuit et grâce à la nuit.
Est-ce que tu peux nous dire un peu où et dans quel contexte, dans quel milieu tu as grandi ? Est-ce qu'on faisait la fête chez toi quand t'étais petit ?
Alors, en fait, ma mère me dit toujours, je me demande d'où tu sors, en fait. C'était assez dingue. De par mon goût, j'ai un frère, mais qui est complètement différent. On n'a pas du tout... il est hétérosexuel, hein. Mais même, c'était totalement différent. Je viens d'une famille modeste lyonnaise, hein. C'était pas la fiesta totale, hein. Mais j'avais toujours... je m'évadais, en fait, dans ma tête, je pense. Tu vois, une espèce de choses qui me faisaient rêver à la télévision, des émissions de télé, de variété, des choses comme ça, qui me permettaient de m'évader et de penser à des choses que je pourrais faire. Mais jamais je me serais imaginé que j'en serais arrivé là.
Comme quoi, par exemple, comme émission, comme t'as des souvenirs précis?
Les souvenirs précis, oui, c'est les Marité Gilbert Carpentier, ça c'était clair et net. J'étais fasciné par le Muppet Show, ça me rendait complètement... dingue. Enfin, j'aimais tout ce côté variety, tu vois, variety show et compagnie.
Ouais, un peu le showbiz, en fait. T'étais fasciné par le showbiz.
Show business, glitter et compagnie, tu vois ce que
ouais,
je veux dire.
Les paillettes, les strass.
Voilà, mais ça paraît con, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont attirés par ce genre de choses. Mais je trouvais ça magique, ça me faisait rêver, en fait. Put on makeup.
Et alors, à partir de quand tu commences à faire la fête? Quand t'es ado, tu disais que tu fais des booms, tu...
Je fais la fête dès que j'ai pu sortir, boire de l'alcool. Donc je faisais des fêtes quand même, comme tu sais, Lyon, il y a toutes ces soirées très bourges, les rallyes, les compagnies, toutes ces fêtes. Donc je faisais beaucoup ça en fait, j'étais avec des copines. Et encore une fois, j'étais un peu le monsieur de ces dames, si tu veux, parce que j'étais un gars du rond, donc je faisais rien à tout le monde. Donc c'est vrai que les gens voulaient beaucoup être avec moi. Donc c'est vrai que j'étais un bout en train, donc j'étais quand même une locomotive comme ça par rapport à tout ça.
Et alors ces premiers clubs où tu sors, tu nous dis les clubs à Lyon, c'était quoi?
C'était des clubs gays, uniquement.
Ouais. Dès le début, t'as été uniquement dans
des
clubs gays?
Ouais, je savais que j'étais un peu moderne, on va dire. Et donc voilà, ça n'a jamais été un problème aussi pour ma famille, ça j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, des clubs, et j'ai découvert les choses tout seul. Alors c'était un peu compliqué parce qu'au début j'ai pas pu dire ça à mes parents, donc je sortais un peu en cachette, je faisais des choses en cachette. Et voilà, mais j'étais très précoce.
Tu te souviens du premier club?
Il y avait un club qui s'appelait le 11, comme quoi, tu vois, à chaque fois qu'il y a une adresse, faut mettre le numéro de du truc, qui était juste derrière Perrache, qui était un club complètement dingue. Un autre club qui s'appelle le Milor, pour tout te dire, c'est des clubs qui n'existent plus. Et un autre club à la Croix-Rousse, qui était vraiment le truc, vraiment, vraiment, vraiment le club PD, qui s'appelait la Petite Taverne. Mais j'ai des souvenirs assez incroyables. Et la Petite Taverne, c'est drôle parce que c'est vraiment le club gay comme à l'époque où tu tapais et on t'ouvrait un petit truc comme ça et tu voyais les yeux du mec, tu sais, comme ça, un peu comme dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, tu sais, quand il ouvre comme ça. Et c'était assez drôle. Il y a un charme, hein, parce que ça m'a marqué et je m'en souviens encore. Hein. Et puis, on partait en vacances, il y avait le Cap d'Agde qui commençait à se développer. Et j'ai connu pas mal de clubs aussi au Cap d'Agde. Après, les clubs que tu connais quand t'es en vacances l'été, ça te donne une autre effervescence, tu vois, il y a quelque chose. Déjà, on buvait du Malibu Ananas, un truc absolument dégueulasse. Oh là là, il y avait le César Palace, il y avait l'Amnésia. C'était vraiment un club à ciel ouvert, enfin un truc complètement novateur, tu vois. Et il y avait un autre club au César Palace qui avait une piscine. Et le fait de pouvoir aller dans une piscine, dans un club, c'était complètement dingue. Et puis bon, l'été, tout le monde se détend l'été, tu vois.
Alors, c'est où les premières soirées où tu sors à Paris? C'est où?
Oh, bah c'est... je te dis, il y avait le Palace, les bains-douches. Il y avait un endroit qui s'appelait le Brode.
Le Palace, les bains-douches, comment t'arrives là-bas?
Parce que t'achètes Guépier et tu vois ce qui se passe dans Guépier, les photos, les machins. Ah, Guépier, c'était quand même la Bible. C'était vraiment le premier magazine pour les gays. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu la presse de l'époque parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas d'internet. Donc tu te démerdais un peu avec ce que les gens te disaient, les magazines branchés en quelque sorte de l'époque, même tout ce qui est aussi Vogue Homme et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Ils parlaient quand même aussi de la nuit, enfin moins de la nuit orientée. Mais voilà, puis après tu fais des rencontres et les gens t'emmènent dans des endroits, tu vois.
Le Palace, du coup, tu l'as beaucoup fréquenté?
Palace, j'ai beaucoup fréquenté, ouais. J'ai connu le Palace la première fois, j'habitais pas à Paris, j'étais venu spécialement à Paris en TGV Orange pour venir au Palace et au bain-douche. Et après, oui, je l'ai beaucoup fréquenté, ouais.
Quels sont tes souvenirs?
Oh, des fêtes costumées au Palace, et puis la grandeur de l'endroit, enfin la beauté, la grandeur de l'endroit. Et ce qu'il y avait au Palace aussi, c'est que tous les dimanches, il y avait un tea dance. Et c'était pas mal parce que tu commençais en fait en haut et après tu descendais cet endroit qui s'appelait le Privilège. Et voilà, mais j'ai vu par exemple Gloria Gaynor chanter, enfin c'était assez dingue. Et t'avais ce dimanche après-midi cette espèce de messe gay. Avec tous les mecs qui étaient là, torse nu, machin, c'était assez dingue quand même.
Et le Privilège dont tu parles, donc c'est la salle qui a été ouverte au sous-sol par Fabrice Aimer un peu plus tard.
Absolument.
Et qui était plus exclusive.
Qui était plus exclusive, qui était réservée. Je sais pas si ça a fait du tort à l'endroit ou quoi au caisse, mais c'était plus exclusive.
J'avais vu dans ta bio Instagram que tu te définissais comme metteur en fête. Ouais. C'est une expression, me semble-t-il, de Fabrice Aimer, le fondateur du Palace. Est-ce que c'est un hommage?
Écoute, je vais te dire, on nous avait, c'est comme ça qu'on nous avait qualifié à l'époque, quand j'avais fait l'Opéra Garnier. C'était vraiment le dénominatif, c'était metteur en fête. Et je trouve ça pas mal. Et c'est vrai, j'ai su qu'après que Fabrice en avait parlé. Parce que c'est un mix entre metteur en scène... Mais tu mets en scène, en fait, la fête, comme au même titre que Jean-Marie Rivière se qualifiait d'ingénieur de travaux publics. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est, je trouve ça vachement bien. Je dis toujours, tu peux dépenser beaucoup d'argent pour une fête et ça ne peut jamais prendre. C'est comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une magie et une espèce de mayonnaise qui prend ou pas.
C'est une forme d'artisanat d'être metteur en fête.
Moi je suis un artisan de la nuit. Hein.
Ouais.
Vraiment je suis un artisan de la nuit, il y a un artisanat absolument et j'ai une façon de travailler à l'ancienne, mais comme j'aime en fait.
C'est quoi travailler à l'ancienne?
Bah, je sais pas, je me pose pas de questions sur beaucoup de choses qu'on se pose en ce moment, mais j'ai pas envie de rentrer dans des cases. C'est un peu à contre-courant de tout ce qui se passe en ce moment où on te met un label un peu comme ça, une espèce de post-it sur la tête en disant toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux pas organiser des soirées en disant ça c'est une soirée queer, ça c'est une soirée machin?
Bah ouais,
ça...
parce qu'en fait le secret d'une soirée c'est le mélange, je pense, et au même titre que... Alors attends, moi j'ai fait des soirées quand j'allais au T-Dance, il y avait que des mecs, hein, ok? Mais la mixité c'est quand même... un peu le secret et la clé de la réussite, quelque part. Je trouve. Hein.
En tant que metteur en fête, tu préfères faire la fête, toi, ou tu préfères organiser des fêtes et faire la fête aux autres?
Le problème, c'est que je faisais les deux. Mais c'est même pas un problème. C'était une évidence, en fait, parce que j'étais tellement heureux de recevoir les gens là, que je m'amuse avec eux. Et les gens aiment s'amuser aussi avec toi. Tu vois ce que je veux dire?
Donc pour bien mettre en fête, il faut faire la fête.
Ben je crois. J'ai pas fait comme Régine qui ne buvait pas d'alcool et compagnie, j'ai pas fait du tout ça. Du tout. Vraiment. C'est un partage, hein.
Comment tu vas basculer justement et te mettre à organiser toi-même tes propres soirées?
M'amuser toujours avec des potes en soirée. Puis un beau jour, j'ai un copain à moi qui avait un club qui s'appelait le Néo Club, qui était rue de Ponthieu. À l'époque, c'était les Guetta, ils avaient un truc qui s'appelait le Tangia, je sais pas, un restaurant marocain, je sais pas si tu t'en souviens. Et en dessous, il y avait un club, et ce club a été repris par un copain. Mais écoute, si tu veux, je te file les dimanches et tu fais ce que tu veux. Donc voilà, à l'époque, j'étais avec un pote, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, tatatitatata, et est venue l'idée de Club Sandwich, un rendez-vous le dimanche soir, et ça a tout de suite pris.
Alors raconte-nous un peu Club Sandwich, du coup, qui sont des soirées qui ont marqué les années 2000-2010.
Ouais, parce que c'était ce Club Sandwich, c'est 2005-2015. Il y a eu plusieurs endroits, il y a eu le Néo, où on a commencé, après il y a eu l'Escalade Paris, avant le VIP Room, qui était encore une discothèque, qui était fabuleux. C'était vraiment Saturday Night Fever, c'était incroyable cet endroit. Et après, on est allé chez Maxim's et l'Espace Cardin. On a fini l'aventure au Yo-Yo, au Palais de Tokyo, mais c'était beaucoup trop clubbing, enfin à mon goût, même s'il y a eu des fêtes incroyables. Hein.
C'était quoi l'esprit de Club Sandwich alors?
C'était des balles costumées. On a relancé des balles costumées.
Ça, c'est hyper important.
Ouais,
tout le monde était costumé.
Ah, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on envoyait des invitations papier. Donc, si tu veux, on donnait un thème. Et t'avais des gens, enfin des clients et des amis qui travaillaient genre 3 semaines, 1 mois sur leur costume. C'était quand même assez dingue. Et Pavillon Gabriel était localisé à Avenue Gabriel. Il y avait la queue, parfois jusqu'à la Concorde. Avec des gens costumés les plus invraisemblables, qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Hein. C'était assez exceptionnel. Avec les flics, évidemment, de l'autre côté, avec toutes les ambassades et tout le truc. Hein. Bon, c'était une autre époque. Hein. Les flics étaient cool.
Pour continuer à décrire un peu, du coup, l'état d'esprit. Donc, c'est des soirées costumées, plutôt queer.
Bien sûr, oui, plutôt queer, ouais.
C'était aussi un univers assez modeux.
C'était modeux. Je dirais que c'était un doux mélange, comme dirait une amie à moi. Un doux mélange qui mariait la mode, l'art, le cinéma, les petites pupus, les nouvelles générations, les copines des copains qui se mettaient pour la première fois en créature, tu vois. Ouais, c'était vraiment un mélange incroyable. Ouais.
On rentre dans une soirée Club Sandwich vraiment au moment, au peak time. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a qui? C'est quoi l'ambiance?
Alors tu pouvais tomber directement sur, sans faire de même dropping, hein, mais sur Marc Jacob, sur Riccardo Tisci, sur Chris Van Nash, sur Alexis Mabille, sur Olivier Rousteing. Mais je te parle de ça, on est en 2005. Hein. Donc c'était vraiment les débuts de beaucoup de monde. Donc ils n'étaient pas autant connus que maintenant. Donc tu pourrais tomber là-dessus, des actrices, des journalistes. Et ce qui est très excitant, je l'avoue, et je me mets toujours moi à la place de mes clients et amis, c'est de faire la fête en fait dans un même endroit où il y a des personnalités, où il y a ces gens. Non, en 2005, ça n'existait pas les smartphones. Nous, on avait des photographes, on avait un photographe attitré, donc il prenait des photos pour immortaliser les moments. Et c'est vrai que c'était encore plus libre, parce que on n'arrivait pas encore à faire des photos et compagnie. Parce que le téléphone a quand même bien niqué la nuit. Hein.
Ouais.
Ah ouais.
Qu'est-ce que ça a flingué ?
Bah, ça a flingué. Alors, c'est deux choses. Ça te fait une publicité et une visibilité par rapport à d'autres personnes, par rapport à un lieu, pour faire venir les gens. Mais en même temps, ça fait fuir les gens, parce qu'il y en a qui s'y posent quelque chose d'un truc ailleurs, donc les gens se cassent. À l'époque, quand t'étais dans un club, bah, tu restais toute la nuit.
Puis ce qui se passait dans le club restait dans le club.
Ce qui se passait dans le club restait dans le club. Là, les gamins, tu les vois tous, ils sont rivés. Je dis pas que j'utilise pas beaucoup mon portable, hein, mais les gamins sont rivés sur leur portable sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc à un moment, t'as juste envie de dire, faites la fête, les gars.
Oui, c'est-à-dire que quand tu racontes trop la fête que t'es en train de faire, tu la fais plus.
Ouais, et puis voilà, et puis de dire, ah, il y a machin, hein, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait ? Amuse-toi. Et vie pour toi surtout, et pas vie pour les autres.
Au niveau des costumes, c'était quoi les thèmes ? Il y a eu quoi ? C'est quoi tes thèmes ?
Oh là là, mon Dieu, les thèmes. Far West, il y a eu les fêtes d'Halloween qui étaient quand même des fêtes mémorables. Diabolic Dolls, pendant les Fashion Week, Super Wigs, le bal noir, Casanova, Drôle d'oiseau.
Ton costume le plus fou.
Le costume le plus fou, je regarde les photos avec beaucoup de recul. C'est un personnage en fait, c'est moi, mais c'est pas moi. Tu rentrais dans la peau d'un personnage. Alors j'ai eu les costumes les plus fous, travesti, pas travesti. À l'époque, avec mon partenaire, on avait fait la Club Sandwich au Marie au bout de 5 ans. Et on avait traversé tout le marais en calèche. Moi, j'étais en grosse meringue comme ça. J'étais la mariée, évidemment. Et lui était tout petit avec... tu sais, comme un peu les espèces de caricatures où tu vois la grosse dame avec son tout petit mari. Tous nos amis étaient là. On a fait une photo de famille comme à un mariage. Il y avait un vin d'honneur. Enfin, on a fait un truc complètement dingue. J'avoue que ça, c'était un souvenir assez, assez rocambolesque.
C'est quoi le rôle du costume dans une fête ? Pourquoi c'est si important ?
Bah, le rôle du costume, c'est de rentrer dans un personnage. C'est-à-dire que quand je sais pas si tu t'es déjà costumé, vraiment costumé, c'est-à-dire de travestir, c'est oublier qui tu es et rentrer dans un personnage. T'as une espèce de... C'est pas de la schizophrénie, mais c'est un espèce de truc où, en fait, t'es pas toi. Tu vois, et tu peux te permettre plus de choses.
Ça a quel effet, ça, de ne pas être soi, en soirée, en fête ?
Bah, c'est un peu, c'est de jouer un rôle, en fait. C'est une fantaisie, c'est un espèce de fantasme, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois, j'étais en costume les plus improbables, et puis tu passes devant un miroir et tu repasses comme ça, tu te dis « Ah ouais, c'est moi !» Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours toi, mais visuellement, c'est une autre personne.
Ça permet plus de liberté dans la fête ?
Ouais, je pense que ça permet plus de liberté, tu peux être plus drôle. C'est drôle parce qu'il y a des fois, je me prenais parfois la tête avec la sécurité, qui faisait des conneries, quoi. Et à la fin de la soirée, je dis « Mais comment, en fait, les mecs... je peux être plausible quand je m'excite devant des mecs en les engueulant avec la tête que j'ai, le costume que j'ai. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs rigolent. C'est quoi ce guignol ?
Dans les interviews, souvent, on me dit la nuit, ça permet d'être enfin soi-même. Parce que dans la société, au jour le jour, on joue un rôle. Et la nuit, on peut enfin être qui on est vraiment. Et là, tu me dis, en fait, le costume, ça permet d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Est-ce que, finalement, se mettre dans la peau d'un personnage, ça permet paradoxalement d'être soi-même, d'exprimer une part de soi-même qu'on n'exprime jamais ?
Oui, c'est une extension de toi-même. Mais je ne suis pas comme peuvent l'être certaines personnes aussi, qui peuvent être ternes en tant que personnage tous les jours, et qui exultent et qui renaissent quand ils sont dans un personnage de nuit, ou travesti, ou ce genre de choses, tu vois. Moi, non. Moi, je suis le même le jour et la nuit. Mais je suis avec une attitude différente. C'est-à-dire que quand tu es en femme, tu vas pas avoir la même gestuelle qu'un mec. Tiens, le personnage, tu vois. Et c'est ça qui est drôle.
C'est quoi un bon costume ?
Ah ben, un bon costume, c'est le bon costume, le bon make-up, la bonne perruque, la bonne chaussure, tout. Vraiment. Moi, j'appelle costumé, j'appelle pas ça déguisé.
C'est quoi la différence ?
Ah bah déguisé, c'est la poupée merveilleuse. limite les gens qui se costument et qui sortent le truc de l'emballage. Ah ouais, mais t'aurais pu peut-être donner un petit coup de fer, non, sur le sur le truc, tu vois. Une perruque, tu achètes une perruque, tu la fais coiffer. Mais moi aussi, je viens de la mode, donc j'ai quand même aussi un œil très aiguisé par rapport à tout ça, et je sais ce à quoi je veux ressembler.
Au moment où vous lancez la Club Sandwich, vous trouvez qu'il manque quelque chose à Paris ?
Ouais, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait, rien n'a été calculé, en fait. Tout s'est passé, ça a été synchro, en fait. Des choses se sont arrêtées, des choses ont recommencé. Et ça a été des rencontres. On a fait costumer des gens qui ne se costument jamais, hein.
Musicalement, qu'est-ce qu'on pouvait entendre dans les clubs sandwich ? Sur quoi on danse ?
Disco, house, principalement. Et encore une fois, la disco, ça rassemble les gens. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense qu'on écoutera tout le temps la disco. Hein.
Donc encore une fois, très Studio 54, oui, très Paradise Garage.
Oui, absolument, absolument, exactement. Quelque chose quand même qui donne aux gens envie de danser, de cette espèce de réunion avec tout le monde, tu vois.
Il y avait un ou des hymnes qu'on entendait tout le temps ou pas ?
C'était « Don't You Want My Love ».
David Jacobs ?
Absolument, David Jacobs. « Don't You Want My Love », tu l'écouteras, c'est fabuleux. Ça, c'était un peu un hymne.
T'as commencé à sortir au Palace, une fascination pour le Studio 54. Quand je t'écoute parler de Club Sandwich, le côté costumé, la queerness, le mélange un peu du gratin, de la mode, etc. Ça fait beaucoup penser au Palace, tout ça.
Est-ce que
c'est une référence pour toi ? Est-ce que...
Alors, on n'a jamais voulu copier. Attention, parce qu'il y a toujours des gens et même des soirées dont j'ai oublié le nom et ça n'a aucune espèce d'importance, communiquaient en utilisant le mot Palace et Studio 54. Jamais nous n'avons utilisé ces termes. Jamais. Parce que Club Sandwich, c'était Club Sandwich. Ça faisait beaucoup penser à ce genre de truc. Et il y a même des anciens qui sont venus, qui étaient au Palace, les Vincent Daré et compagnie. Ça leur a rappelé beaucoup de choses. Une espèce de flavor, tu vois. Évidemment, c'est indéniable. Quand tu fais une fête costumée, ça peut faire penser qu'à ce genre d'endroit. Si tu as une référence dans la nuit, tu vois. Je pense que tu imprimes aussi des choses visuelles que tu redigères et que tu exprimes. Tout le monde a fait un thème romain, tout le monde a fait un thème comme ça, tu vois. Mais c'est la façon de le faire.
Est-ce que malgré tout, t'as pas un peu de nostalgie des années Palace en se disant c'était plus fou avant et on a envie de recréer cette folie, pas de recréer le Palace, mais de retrouver quelque chose qu'on a perdu. Est-ce que t'es nostalgique ?
Par rapport à plein de personnes qui disent qu'ils sont pas passéistes et nostalgiques, j'ai une certaine nostalgie, mais une nostalgie saine. En fait, je dis pas c'était mieux avant, c'était différent avant. Il se passe, comme je te disais, beaucoup de choses quand même. Donc les kids, ils vivent des choses. Je pense que certaines personnes qui aiment ou se costumer ou se coquer sont nostalgiques de ces lieux qu'ils n'ont pas connus. Mais ces lieux appartenaient à une époque, à un lieu, avec des gens. Tu ne peux pas recréer la même chose. Club Sandwich, ça a appartenu à une époque, avec un lieu, avec des gens. Tu ne peux pas recréer quelque chose qui s'est déjà passé. Et c'est très drôle parce que je me suis toujours posé des questions quand tu vois des photos de soirée ou du studio ou du Palace ou quoi que ce soit, des moments forts avec une photographie qui parle d'elle-même. Et la photo, tu te plonges dedans en te disant oh, « c'est incroyable ». Et en fait, tu ne te rends pas compte que le moment que tu vis à ce moment-là est unique. En fait, le moment, tu le vis, tu fais la photo, et après, genre 15 ans après, tu auras la photo, tu te dis « Ah ouais, quand même !» C'est ça qui est magique.
Au Palace, comme au Club Sandwich, c'était un rendez-vous aussi de tout le monde de la mode.
Oui.
Qui, dans un cas comme dans l'autre, fréquentait ces soirées et faisait aussi l'attrait de ces soirées. C'est quoi pour toi le lien entre la fête et la mode ?
Bah, les gens déjà s'habillent pour sortir, donc t'as un attrait de mode. C'est des lieux qui ont été fréquentés par des gens de Yves Saint Laurent à Karl Lagerfeld, Claude Montana, Thierry Mugler, pour ne citer que. Enfin voilà, les lieux de nuit ont vraiment été fréquentés par beaucoup de gens de la mode. Vraiment beaucoup de gens.
La mondanité, ça fait partie de la nuit, ça fait partie de la fête pour toi ?
Oui, la mondanité, ça fait partie de la fête. Mais en fait, j'ai toujours été très poli et très accueillant avec les personnalités. Et parfois, on a accueilli des gens très importants. Mais en fait, j'ai jamais surjoué, en fait. J'étais naturel. Et je pense que ces gens le ressentent. Ça sert à rien de surjouer. Ce sont des gens comme toi et moi, hein, qui sont talentueux dans ce qu'ils font. Mais en fait, il faut les accueillir normalement. Je trouve que c'est super important et je crois qu'ils le ressentent.
Le petit Emmanuel qui avait des étoiles dans les yeux quand il était fasciné par le showbiz à la télé, est-ce que avoir des célébrités comme ça dans tes soirées, ça lui fait quelque chose ? Est-ce que tu repenses à cette fascination ? Est-ce que t'as toujours ça un peu dans un coin de ta tête ?
Je le vivais comme quelque chose d'exceptionnel, mais j'avais pas envie de le... Encore une fois, pas de le montrer, mais je voulais être normal par rapport à ce... Oui, alors c'est fascinant de rencontrer des gens. Mais par exemple, quand j'ai rencontré Céline Dion qui est venue au Banco. Elle est venue deux fois. Céline Dion, c'est une star internationale. On peut vraiment appeler ça une star internationale. Mais en fait, c'était comme si c'était une copine. Je sais pas comment te dire. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, parce qu'elle est une familiarité. C'est ça qui est intéressant, en fait. D'être normal avec des gens qui ne sont pas normaux.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que permet la fête, qui pourrait pas avoir lieu en dehors de la nuit ?
Ah ben ouais, la nuit, ça permet de lisser les choses. Hein. Les gens sont un peu alcoolisés, ça détend un peu tout le monde. Puis il y a la musique, il y a tout ça. Oui, je pense.
Tu l'as un peu évoqué, mais après le Club Sandwich, tu as fait pas mal de choses, et notamment, tu as lancé plusieurs cabarets. Est-ce que tu peux nous raconter ces aventures-là ?
Donc, le Banco Cabaret, 2015-2019. C'est complètement différent de Club Sandwich. Club Sandwich, c'était vraiment une soirée, c'était une messe mensuelle, si tu veux, si je puis dire, une messe costumée mensuelle. Et le Manco Cabaret, c'était tous les vendredis et tous les samedis, chaque semaine. Donc c'était Avenue Montaigne, donc quand même le Carré d'Or, Avenue Montaigne, tout le théâtre des Champs-Élysées. Ça a été pour moi une aventure humaine extraordinaire, vraiment dans le sens propre du terme. Ça a vraiment été quelque chose de dingue et de... Pour moi, de plus fort que Club Sandwich. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que la relation humaine, le partage avec les artistes, de faire un spectacle, il y avait des gens qui étaient là tous les week-ends. Hein. Il y avait quelque chose, il y avait un échange en plus, parce que le Manco Cabaret, c'était un tout petit endroit. Et t'avais vraiment une proximité, mais tu pouvais toucher les artistes carrément, tu vois. Et puis il y avait une interaction avec le public, les artistes rentraient dans le public comme ça, donc il y avait une espèce de... Ça s'articulait de la façon suivante, il y avait crescendo en fait tout au long de la nuit, si tu veux. On était ouvert de 23h30 jusqu'à 14h du matin, donc il y avait quelques shows, DJ break, on dansait, on se rasseyait... Show, DJ break, et comme ça tout au long de la nuit.
Donc c'était une alternance de spectacle et de fête.
Absolument.
Les shows du coup c'était quoi ? C'était du cabaret, du transformisme,
des travestis. Il y avait du circassien, transformiste. On était inspiré par les cabarets berlinois, les cabarets des années 70. On a été beaucoup inspiré aussi par Jean-Marie Rivière avec l'Alcazar de Paris, le Paradis latin. Tu vois, donc cette espèce de mélange sur scène où t'avais même des filles qui étaient tellement maquillés outrageusement qu'on aurait dit des hommes carrément, si tu veux, donc des travestis mais femmes, donc c'était vraiment une espèce de mélange de genres et de gens qui était super intéressant, des travestis, des avocats, des acteurs, des gens de la mode. Je veux pas dire c'était pas un mini palace, mais il peut se passer des choses absolument mémorables dans un endroit comme le palace, hein, c'était pas bien tous les soirs, comme le studio 54 c'était pas bien tous les soirs, hein. Faut pas qu'on nous fasse croire que c'était merveilleux tous les soirs, ce n'est pas vrai. Mais c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a des soirs, c'était, mais tu sortais de là, tu te disais, mais qu'est-ce que j'ai vécu ce soir-là ? De par la mixité, de par le spectacle, bon, les artistes étaient toujours fabuleux, mais les artistes sont fabuleux, mais peuvent être encore plus fabuleux que ce que tu as déjà vu, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est dingue.
Le fait d'avoir cette alternance comme ça de show et de danse, de dance floor, etc. Du coup, est-ce que la soirée se transforme encore plus en une aventure, quoi ? Tu t'embarques dans un truc ?
Oui, absolument. Alors, il a fallu imposer ça. Hein, parce que quand on a ouvert, Les gens ne comprenaient pas. C'était un ovni. Hein. Les gens ne comprenaient pas qu'il y avait le spectacle, qu'il fallait s'asseoir. En plus, interdit de filmer, interdit de prendre des vidéos, parce qu'il y avait de la nudité. Et donc, on a imposé ça. Alors, ceux qui ne comprenaient pas, bah, ne revenaient pas. Et puis, il y a ceux qui... Et puis après, l'éducation et la routine, si je puis dire, c'est vraiment imposé comme ça. Et oui, ça donnait quelque chose d'excitation. Quand ils savaient que le show était terminé, le DJ passait au bon moment le bon morceau pour relever toute la salle, pour que tout le monde danse et compagnie, tu vois. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après le spectacle, évidemment, tous les artistes venaient dans la salle. Et c'était un joyeux bordel quand même.
Historiquement, dans le cabaret, il y a quelque chose d'assez subversif, j'ai envie de dire. Avec...
Il y avait des messages aussi un peu, pas politiques, mais il y avait quand même des messages,
voilà.
Tu vois.
Est-ce que ce côté subversif, un peu politique, on le retrouvait dans le Manco ?
Je te coupe, hein, ça a toujours été le cabaret, c'est son identité propre. Hein. Faire passer aussi des messages avec une façon artistique et élégante.
Ça fait partie de la fête aussi ?
Oui, ça fait partie de la fête.
Cette subversion.
Oui, et puis il faut savoir que chacun reçoit le spectacle de leur manière. Moi, mes parents, qui sont assez âgés, sont venus plusieurs fois au Manco. Mon frère aussi, qui est totalement hétéro et qui n'a pas du tout de sens artistique et compagnie. Ils ont été touchés par ce qu'ils ont vu. C'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de voir.
Alors après, le Manco, ça s'arrête ?
Le Manco, ça s'arrête brutalement, pour des histoires, comme dirait l'autre, de fourrure empruntée rendue tachée, qui m'a complètement dégoûté de l'amour. Bref, oui, ça s'arrête brutalement, parce qu'avec ils ont voulu faire un club, tout simplement, un club avec des DJ, et simplement, voilà, pour éviter beaucoup de choses. Pour moi, c'est toujours... j'ai toujours un pincement au cœur quand je revois des photos, des vidéos du Manco, parce que c'est très difficile de créer quelque chose comme ça. On avait une personne qui travaillait à la porte, pour ne pas la nommer, qui s'appelle Galia. Galia qui a eu la chance et le bonheur de travailler avec monsieur Jean-Marie Rivière à l'Alcazar, rue Mazarine, donc dans les années 70. Et ça l'a fait pleurer, en fait, de voir tout ça, parce que ça lui a rappelé des choses qu'elle n'avait pas vues depuis 40 ans. Plus de 40 ans, tu vois. Donc, encore une fois, quand tu disais, ça faisait beaucoup penser, on s'est inspiré, tu essaies toujours de faire des choses. Alors, inévitablement, ça te fait penser à d'autres choses. Mais c'est une sensibilité artistique, je pense.
Alors, la suite après le Manco, c'est le 7e ciel ?
Alors, la suite après le Manco, oui, ça a été un peu... Monsieur et Madame Covid, hein, déjà. Et donc, c'était un peu compliqué, tout ça. Donc, on était tous restés dans notre niche. Et oui, il y a eu après l'aventure du Georges. J'ai commencé tranquillement au Georges avec quelques rendez-vous le dimanche soir. Où il se passait des choses, c'était assez magique parce que, en fait, on n'avait pas le droit de danser. Mais étant situé au 6e étage, j'ai la prescription, hein, je peux en parler, de Pompidou, c'était la fête de dingue. C'était le seul endroit, je pense, où on dansait à Paris. Mais vraiment, hein.
Pendant que c'était interdit.
Ouais, pendant que c'était interdit.
Donc on est où exactement dans Paris ?
À Beaubourg, au Georges, au 6e étage.
Au 6e étage de
Absolument,
Beaubourg.
Le restaurant, voilà.
Comment se sont organisés ces fêtes, ces événements dansants alors qu'il était interdit de danser pendant Covid ?
Tu joues de parce que tu n'as pas pignon sur rue, parce que tu es au 6e étage, et parce que tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis dès que tu mets un DJ avec de la bonne musique, les gens se lèvent et dansent.
Surtout quand ils n'ont pas dansé depuis longtemps.
Surtout quand ils n'ont pas dansé depuis longtemps et qu'on leur dit de ne pas faire. Donc, on fait toujours les choses que tu ne dois pas faire. C'est comme ça. Hein. Et après, j'ai eu cette idée de 7e ciel. Je me suis occupé aussi de restaurants. J'aime recevoir les gens. Je trouve que le partage de la nourriture, c'est quelque chose de... Enfin, j'aime ce partage. De les accueillir pour dîner, de leur montrer un spectacle pendant le dîner à l'ancienne, hein, et de les faire danser après. J'aimais beaucoup cette idée. Donc, cette idée de 7e ciel m'est venue. Et ça a tout de suite pris, j'avoue. Et j'ai fait monter une scène avec un écran vidéo au Georges. Et ça donnait une espèce de... En fait, t'imagines, tu étais au 6e étage, dans un environnement complètement moderne qu'est Beaubourg. Tu vois un spectacle de cabaret avec un écran vidéo, avec des choses évidemment qui se passent derrière. Et derrière, t'as Paris, la Tour Eiffel. Enfin, c'est... Un cabaret, généralement, c'est... sous la terre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans un milieu fermé, tu ne vois pas l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose de privé, de feutré. Là, t'étais Et puis en plus, sortant de Covid et sortant de tous nos terriers, je peux dire que les gens étaient contents de respirer et de... Voilà, donc c'est pour ça que ça a pris et il y a eu des fêtes mémorables, hein, vraiment.
Et donc, c'est, ouais, 7e ciel, c'est dîner, spectacle cabaret et puis une fête, voilà. Dans, toujours dans cet esprit, Club Sandwich.
Exactement, c'était principalement que de la disco, exactement. Je dirais que le 7e ciel, c'était la rencontre en Club Sandwich et le Manco, si tu veux, quelque part. C'était un peu l'osmose des deux trucs. Et puis voilà, sans vouloir refaire l'un ni l'autre. Mais voilà, j'avais envie de m'exprimer aussi artistiquement.
Le 7e ciel, c'est fini ?
Après, le 7e ciel est arrivé le Bonnie. Si tu veux, le 7e ciel, ça s'est terminé l'année dernière pour Halloween avec une fête mémorable. Le thème, c'était rouge. Mais j'ai une petite idée sur le 7e ciel. Je veux recréer ça, mais j'attends de trouver un lieu pour recréer ça et pour revenir avec une vitrine et quelque chose de festif à ma manière.
Qu'est-ce qui, d'après toi, relie dans le fond une soirée Club Sandwich avec une soirée vraiment clubbing dans les années 80 à Lyon, avec une soirée en plein air au bord d'une piscine au Cap d'Agde dans les années 90, des soirées qui a priori n'ont rien à voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie entre elles quand même ?
Moi ? Je pense que c'est l'évolution, ça a été une évolution, une progression. Et encore une fois, je ne me suis jamais dit en faisant la fête quand j'avais 15 ans ou 16 ans au Cap d'Agde en disant « je vais faire des soirées déjà à Paris ». Parce que pour t'imposer à Paris, pour moi Paris est quand même la vitrine du monde, hein, quelque part. Hein. Il y a d'autres villes sublimes dans le monde, mais Paris, pour moi, ça reste Paris. Je suis toujours aussi impressionné par cette ville et ce qu'elle peut t'apporter et la beauté de cette ville. Voilà, c'est l'évolution logique de ma destinée.
Le destin. Et est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui relie une soirée Club Sandwich avec, je vais pas citer de nom et pas citer d'exemple, mais une soirée clubbing très classique, hétéro, vraiment le club de base. Est-ce qu'il y a quelque chose ?
Non. La musique ? Mais ça dépend de la musique qu'ils écoutent. Je pense que c'est une expérience et c'est quelque chose que tu devais vivre. Nous, nos clients et amis étaient acteurs de la fête. Mais quand on parlait de nostalgie tout à l'heure, je suis pas nostalgique de Club Sandwich. J'ai plus un pincement au cœur avec le Manco. Voilà, parce que c'est plus une aventure humaine. Même si les deux étaient des aventures, hein, mais il y a plus quelque chose de... Club Sandwich, on a décidé de l'arrêter. Le Manco, on n'a pas décidé de l'arrêter.
Il y a un sujet qui est souvent un peu tabou quand on parle du monde de la nuit et de la fête. C'est la drogue ou au moins l'alcool, alors que ça fait partie de la fête. Toi, c'est quoi ton rapport à ça ? Qu'est-ce que tu penses de la place des substances en général, et j'inclus l'alcool dans la fête ?
Bah écoute, je pense qu'il y a eu plein de périodes dans l'histoire du clubbing et des soirées qui appartenaient à certaines drogues, je pense. Tu serais complètement se voiler la face en disant tu fais une soirée sans drogue ou sans alcool, enfin sans alcool et sans drogue. Tu vois, j'ai à un moment donné... Les gens sont tous responsables de ce qu'ils font. Les gens s'échappent comme ils le peuvent. Et je pense que ça peut pimenter. L'alcool, c'est évident, hein, de toute façon. Voilà. Et après, tu trouves ton truc où tu veux. Mais il n'y a pas de nuit sans alcool. C'est clair.
Non. Pourquoi ?
Bah, parce que ça t'enivre. Parce qu'au même titre qu'un costume, c'est-à-dire qu'avec l'alcool, ça désinhibe. Sur certaines personnes, ça agit pour pouvoir exprimer quelque chose que tu ne peux pas exprimer quand t'es le matin à 9h au bureau.
Est-ce que tu préfères les before ou les after ?
Les after, mais j'en fais plus. J'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai beaucoup, 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 beaucoup ri. Beaucoup ri. Parce que moi, je suis sorti aussi pour m'amuser. Et je me souviens de soirées mémorables. Donc dans les afters, évidemment, les afters, c'est tellement drôle, c'est n'importe quoi. Before, c'est trop calme.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Le minimum spending. C'est-à-dire, tu rentres, si tu prends pas une table à 1500 ou 2000 balles, tu rentres pas, en fait. Je pense que ça, c'est un peu... Donc, c'est de l'assurance pour les groupes et pour tous les exploitants de lieux d'être sûr de faire un chiffre d'affaires. OK ? Donc, il y a ça d'un côté. Mais je pense que ça rend la nuit moche. C'est pas chic. C'est pas festif. En fait, tous ces gens veulent faire de la nuit un business. Et ce sont des gens qui n'aiment pas la nuit. Après, je comprends complètement. On avait cette politique au Manco, ce qui nous a fait tenir aussi, parce qu'on avait ce qu'on appelle des big spenders, des gens qui venaient de l'étranger. Et t'as des gens aussi qui aiment dépenser aussi de l'argent, c'est clair. Et tout ce beau monde, il faut le payer aussi, hein. Entre les directeurs artistiques, les metteurs en scène, les artistes et compagnie, tu vois. Mais je trouve que ça, la nuit est totalement différente avec ça. C'est triste.
Qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, que sa raison d'être profonde ?
De t'évader, de vivre quelque chose, c'est une espèce d'aventure, enfin d'une fête. Moi je me souviens d'être sorti de soirée où t'étais rincé parce que t'avais vraiment vécu quelque chose, tu vois. Et quand tu fais le rembobinage à l'envers et tu te dis t'as fait ça, c'est de vivre une expérience, je pense, non ?
En concentré, en accéléré.
Oui, en concentré, en accéléré, parce que ce qui serait drôle, en fait, c'est, oui, tu pourrais faire un clip, justement, d'être suivi toute la soirée comme ça, et de faire des trucs pas possibles, parler à des gens, des machins, des trucs, tu danses, machin, et de balancer ça tout en accéléré, je trouve ça assez drôle.
Le sens de la fête est un podcast de Nick La Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si tu ne devais choisir qu'une seule track, un seul morceau de musique ultime pour faire la fête, toi, le morceau qui te fait vriller immédiatement.
Les morceaux qui me font vraiment vriller et qui me font vraiment partir, ça va être complètement taquille, ça va être cheesy même. Hein. Ce morceau que j'adore, qui est Georges, en fait, de Sylvie Vartan. Je sais pas, c'est un truc de dingue. Ça me rend complètement dingue, ce morceau.
Je m'amourais d'ennui dans la discothèque. À me faire du cinéma ou le fils du chef. On m'emmenait au galop des 220 chevaux. Une super Bugatti un soir à Miami. Quand un homme entra beau comme un...
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never-ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.